Chapitre 40. Hypersensible. Après un mois d'octobre assez ensoleillé, l'automne s'est installé de façon discrète sur notre région. Quelques belles journées nous ont encore fait douter du changement de saison. Mais depuis une semaine, nous nous réveillons dans la brume et n'avons que très rarement la chance de surplomber la chape de nuages qui stagne jusqu'au soir. Le gris du temps nous oblige à une lutte permanente pour convoquer un peu de lumière au fond de nous. J'ai remis en route le poêle à bois et la cuisinière avec le plaisir de retrouver cette douce chaleur quand on rentre le soir, après une journée humide et maussade. Les enfants, à l'école, ont troqué leur tenue d'été contre les pantalons et les vestes imperméables. À la maison, nous avons tous trouvé un petit rythme à nous, individuel et collectif. Gaël a déjà perdu 6 kilos. Il est toujours aussi pressé d'atteindre son objectif. Mais Claude l'a encouragé à freiner un peu, pour ne pas perdre trop vite, afin d'éviter au corps un changement trop brutal. Il se sent déjà mieux. D'abord, d'être moins lourd, mais aussi d'avoir repris une activité physique. Eric et lui partent marcher tous les soirs au retour de l'école, et Gaël est fier de voir le chronomètre afficher un temps de plus en plus court pour le même tour. L'esprit de compétition a parfois du bon chez l'être humain. Il fait du vélo elliptique chaque matin et va nager 3 fois par semaine. Il ne pensait pas être capable de reprendre le sport. En revanche, dès qu'il force un peu, son souffle le rappelle à l'ordre. Il a plus de mal avec ses pulsions alimentaires. La lutte est acharnée et douloureuse avec son mental, qui essaie toujours de lui faire croire qu'il va mourir s'il ne mange pas plus. Mais il résiste. Je renouvelle les massages, régulièrement, pour prendre un peu soin de son corps, que plus personne ne touche, alors qu'il en a tant besoin. Il pleure, parfois, pendant que mes mains le malaxent, comme du fromage qu'on presse et dont on sort le petit lait. J'attends que tout ait coulé pour m'arrêter. Il me sourit, me prend dans ses bras, me dit merci pour l'accalmie. Ananina lui fait du bien également. Deux grands sensibles qui se rencontrent ont de bonnes chances de se comprendre. Elle commence à gagner aux échecs contre lui, et cela l'aide à prendre confiance en elle, car elle en manque de plus en plus, comme si se confronter aux autres enfants lui avait fait perdre son insouciance. À moins que ce ne soit l'âge, les apprentissages, le simple fait qu'elle grandit et qu'elle découvre les réalités de notre société. Je la regarde évoluer avec beaucoup de tendresse, parfois le cœur serré de retrouver des sensations de ma propre enfance. Je le sais. Je le sens, elle fait partie de ces enfants qu'on dit précoces, surdoués, à haut potentiel, et que l'on devrait appeler dyssynchroniques pour définir ce mélange d'intelligence hors norme et d'hypersensibilité, d'anxiété, de peur de l'échec. À ces difficultés s'ajoute celle d'avoir été écartée, ou plutôt épargnée, de la vie sociale les 7 premières années de sa vie. Le décalage doit être violent. C'est peut-être pour cela qu'Éric avait peur de l'inscrire à l'école. Mais avait-il le choix? Il faut bien s'y confronter un jour. À nous de lui apprendre à faire face, à ne pas en souffrir, à comprendre les vraies priorités, à se satisfaire de ce que l'on fait et non à essayer de plaire aux autres. Bref, toutes ces choses que j'ai essayé d'apprendre moi-même et qui ne coulent toujours pas de source. Ananina reste cependant vive et joyeuse, inventive et joueuse. Elle nous parle souvent de Sébastien. Elle peine à comprendre, et encore plus à accepter, qu'il puisse se sentir seul et rejeté, elle qui a baigné dans l'amour fou et inconditionnel de son père. Nous lui expliquons que les choses ne sont pas simples, qu'il y a toutes sortes d'humains, que chacun fait ce qu'il peut avec la petite valise qu'il trimballe depuis l'enfance, que cela dépend beaucoup de l'amour que l'on a soi-même reçu. Donc, moi, quand j'aurai des enfants, je les aimerai forcément, en a-t-elle conclu ce jour-là. Forcément. Mais ça veut aussi dire que si Sébastien a des enfants, il ne les aimera pas? Ça ne veut rien dire du tout. Ça dépendra des gens qu'il rencontrera, de la personne avec qui il partagera sa vie, et de ce qu'il aura compris de l'amour. Alors, si on lui donne plein d'amour maintenant, il pourra mieux aimer ses enfants? L'amour qu'il reçoit aujourd'hui l'aidera toute sa vie, avec ses enfants et avec les autres. Et je pense que ses parents l'aiment quand même, mais qu'il ne le ressent pas suffisamment pour en être sûr. Ananina s'emploie depuis à une délicieuse bienveillance envers lui. Il passe une bonne partie de ses week-ends chez nous, à jouer ou à bricoler avec la petite et Gustave, à partir en vadrouille avec eux. Il reste discret quand nous sommes là, mais je suis sûre que dans l'intimité de leur jeu d'enfant, il lève le voile sur ce qu'il ressent, déposant au passage son petit bagage de peine, car je le vois s'épanouir doucement et une joie simple commence à chasser la tristesse de ses yeux. Eric a mis quelques semaines à trouver ses marques, à combler tout le temps qu'Ananina ne passe plus avec lui, à digérer peut-être cette sensation de vide. Il l'a employé à aménager la vieille cave inutilisée. Nous avons profité d'un week-end durant lequel Gaël était parti chez un ami en Belgique pour aller chercher sa batterie. Ses parents ont accepté de ne pas l'inviter avant que nous lui fassions la surprise, afin qu'il ne puisse pas constater sa disparition. J'ai d'ailleurs prétexté ne pas les avoir vus depuis longtemps pour les inviter à déjeuner, ce qui n'est ni un mensonge, ni une fausse excuse. Nous nous apprécions beaucoup, et ils n'ont pas encore vu où leur fils s'était installé, ni la petite troupe improbable que nous formons autour de lui. Nous avons demandé à Gaël de venir à 10h pour lui offrir la surprise en exclusivité. Ses parents arriveront vers midi. Quant à moi, je pense avoir réussi à laisser la raison prendre le pas sur mon corps. Je ne vais plus me promener aux mêmes endroits, et je n'ai pas revu l'homme, ni dans la forêt, ni sur la route. Les quelques fois où j'ai entendu une tronçonneuse au loin, j'ai réussi à me convaincre que je ne voulais pas de cette histoire. Je suis rassurée. J'ai quand même une conscience. Et je veux surtout qu'Eric puisse me faire confiance. Je m'en veux déjà de n'avoir pas su fuir les deux fois où j'ai croisé ce bûcheron dans la forêt. J'espère même ne plus le revoir.